Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Liane.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Nous croyons que Jésus-Christ peut réellement changer nos vies. Et c'est ce que nous annonçons à travers Espérance aujourd'hui.
Mais comment trouver le salut offert par Jésus? Et en quoi ce salut changera-t-il nos vies? Nous allons maintenant en apprendre davantage.
Pendant la dernière émission d'Espérance aujourd'hui, j'ai parlé avec une invitée, Silke Kirchner, qui a commencé à raconter son cheminement spirituel vers la foi en Jésus-Christ. Elle est de retour aujourd'hui afin de partager la suite de son histoire. La dernière fois, nous avons appris que Silke a grandi en Allemagne, où, au sein de sa famille, elle a reçu une certaine éducation chrétienne. Toutefois, comme beaucoup, à l'âge de l'adolescence, elle a été attirée par les voies de ce monde. Elle a commencé à pratiquer le mal, mais, au lieu de trouver le bonheur, elle a sombré dans le désespoir et la dépression. Ce monde séducteur est en effet trompeur. Les chemins qui semblent si attirants aboutissent souvent au malheur. Silke s'est sentie prise au piège. Elle voulait trouver une issue et elle a eu l'occasion d'aller passer une année en France pour faire des études. Elle espérait y trouver une vie nouvelle. Mais pendant les premiers mois, rien n'a changé, si ce n'est qu'elle a rencontré une chrétienne de foi vivante et vraie. Silke, dites-nous la suite de votre histoire, s'il vous plaît.
Oui, cette nouvelle amie, Andréa, faisait partie de ce qu'on appelle le groupe biblique universitaire. Le GBU est une association qui réunit les étudiants souhaitant vivre leur foi en Christ. À l'occasion de Pâques, dans la ville de Toulouse où je résidais, ce groupe a préparé 3 soirées d'évangélisation. L'une d'entre elles allait devenir un des événements le plus marquant sur mon cheminement vers le salut. Il s'agit d'une soirée vidéo où ils ont tout simplement montré un film nommé Jésus. J'ai assisté à cette soirée avec mon petit ami du moment, mais à l'issue, je voulais être seule pour pleurer. À travers cette vidéo, qui suivait fidèlement l'évangile de Luc, j'ai compris que Jésus est réellement le Fils de Dieu, le seul Sauveur, celui qui a payé le prix de mes péchés par sa mort sur la croix.
Et pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé dans votre cœur ces jours-là?
Oui, j'ai compris que le Saint-Esprit travaillait mon cœur, et je ne pouvais plus le nier. Je menais une vie immorale avec mon petit ami. Nous avons eu des relations sexuelles hors du mariage. Et soudainement, j'ai compris l'horreur de ce péché contre Dieu, de tous mes péchés, et je ne savais plus quoi faire. J'ai alors commencé à crier à Dieu qu'il me montre comment je pouvais être délivrée de mes péchés.
Et Dieu a-t-il répondu à cette prière?
Oui. Un jour, Andrea est venue me voir dans mon studio, et elle me demandait ce que j'avais sur le cœur. Nous avons lu la Bible ensemble, et quand j'étais toute seule un peu plus tard, j'ai trouvé un verset qui m'a touchée jusqu'au fond de mon être. Le voilà, c'est Jérémie 17, verset 9. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. J'étais sûre maintenant que la Bible était plus qu'un livre. Ses paroles perçaient mon âme. Tout ce que j'avais cherché et désiré avec mon cœur humain était faux et trompeur. J'en étais persuadée, et surtout par rapport à la relation avec le copain que j'avais à cette époque.
Qu'est-ce que vous avez fait de cette conviction?
Je ne pouvais qu'agir. Je dis à mon copain que je ne pouvais plus continuer à avoir des relations sexuelles, et je lui ai demandé de m'accorder du temps afin de réfléchir. Les semaines suivantes étaient étranges. J'ai erré jour et nuit dans les rues de Toulouse, criant du fond de mon cœur que Dieu me montre le Sauveur. J'étais complètement désespérée. Je savais que si je ne trouvais pas le salut, j'irais en enfer.
Donc vous étiez toujours à la recherche de quelque chose. Comment êtes-vous parvenu à trouver une réponse à vos cris?
Le 8 mai 2000, j'ai passé la journée avec mon amie chrétienne, Andrea. Nous avons beaucoup parlé de Dieu, bien sûr. Et vers la fin de cette journée, elle m'a donné un traité sur une partie de la Bible appelée le premier épître de Jean. Et elle m'a dit aussi que la chose la plus importante, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et elle m'a dit que je dois prier et lire la Bible moi-même. Et puis j'ai ouvert ce traité et mes yeux sont tombés sur les paroles « Dieu est lumière, il n'y a aucune obscurité en lui. Et moi, j'étais rempli d'obscurité, mais je voulais vivre dans cette lumière divine. Comment y parvenir? Je sentais de plus en plus que mon état devant Dieu était grave. Et tout d'un coup, j'ai eu comme une révélation et j'ai compris que Jésus seul a pourvu une issue. Il est celui qui a payé pour tous mes péchés à la croix. Oui, il a pris sur lui-même la peine que méritaient mes péchés. Aussi, il a été ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle dans la présence de Dieu. À ce moment-là, j'ai cru pleinement, sincèrement en ces vérités.
Et que ressentiez-vous par la suite?
Je ressentis une grande joie, très soulagée. Le fardeau du péché qui me pesait si lourdement a disparu. J'étais rempli d'espoir pour l'avenir, et tout ça grâce à Jésus-Christ et son amour pour moi, exprimé surtout par son sacrifice sur la croix. En même temps, et surtout quand je suis rentrée en Allemagne pour l'été, j'ai eu des jours assez fatigants, car je n'ai pas cessé de parler de Dieu, de témoigner de ce que Jésus avait fait et de l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. Mais peu de personnes voulaient m'écouter. Je vivais des moments forts. Les bénédictions venant du ciel d'un côté, mais je rencontrais l'opposition du monde et du diable de l'autre.
Et en quoi votre vie a-t-elle changé? Je pense surtout à votre façon de vivre et à ces sentiments de solitude et de désespoir. Qu'en est-il depuis?
Bien sûr, j'en rencontre encore des moments de solitude, mais depuis que Jésus m'a trouvé, je n'ai plus eu des moments de désespoir total. Je dois me rappeler jour après jour que Dieu m'aime d'un amour parfait. Je découvre encore et toujours plus l'ampleur et la qualité de son amour. Depuis ce moment en France où je suis entrée par la foi dans les promesses de Christ, plus de 4 ans se sont écoulés et j'ai eu une vie variée. J'ai vécu en France, en Allemagne, au pays de Galles et maintenant je vis en Angleterre. Je fais des études, j'ai enseigné. Et actuellement, je travaille dans le cadre pénitentiaire. À travers toutes mes expériences et les chrétiens que j'ai rencontrés et les églises dont j'ai fait partie, j'ai beaucoup appris sur Dieu et ma marche avec Christ a été affermie. S'il est vrai que je me suis beaucoup déplacée pendant ces dernières années, j'ai la conviction que le Seigneur m'a conduite et qu'il est sans cesse auprès de moi.
Nous remercions Silke pour son témoignage si clair et plein d'espérance.
Tout comme Silke a pu trouver la paix et la stabilité grâce à une relation personnelle avec Dieu, vous le pouvez aussi. Les circonstances de votre vie sont peut-être très différentes de celles vécues par Silke, mais cela n'a pas d'importance pour Dieu, car sa grâce et sa puissance peuvent venir à bout de chaque situation.
Nous passons maintenant à notre moment de méditation biblique habituel. Pour l'introduire, Hélène va lire un passage dans la première épître de Jean, au chapitre 1, versets 5 à 7.
Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ, et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu, mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons, et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés.
Il est intéressant de constater à quel point la nuit rappelle tout ce qui est mauvais et malheureux. Pour certains, la nuit suscite des sentiments d'angoisse, d'insécurité et de solitude. D'autres se servent du couvert de la nuit pour commettre des délits ou pratiquer des activités douteuses. La nuit évoque la terreur des esprits qui rôdent. La nuit dissimule les intentions du malfaiteur et de l'adultère. C'est pour cette raison que l'apôtre Jean, qui a écrit les paroles dues tout à l'heure, prend la nuit ou l'obscurité comme une image poétique du mal, de tout ce qui ne va pas dans ce monde. Par contre, il prend la lumière comme une image du bien, et il dit que Dieu lui-même est lumière, qu'en lui, il n'y a pas de nuit. Il décrit ainsi la perfection de Dieu. Dieu est juste, bon et pur. Son existence n'est pas entachée par le mal, il est incapable de le commettre. Toutefois, les hommes et les femmes sont, sans exception, souillé par le mal, rendu impur et coupable par le péché. Lorsque nous sommes exposés à la lumière de la perfection de Dieu, cela peut être une expérience pénible et douloureuse. Imaginons un appartement dont on n'a pas ouvert les fenêtres depuis bien longtemps. Les habitants, vivant dans la pénombre, ne se rendent pas compte des saletés et de la poussière qui s'y accumulent. Et puis, un jour, on décide de laisser pénétrer la lumière du soleil en ouvrant les volets et les stores restés longtemps fermés. Le soleil révèle ainsi tout ce qui est en désordre dans l'habitation, et les propriétaires en sont alors stupéfaits et embarrassés. Silke, à force d'entendre parler de la perfection de Dieu et de lire sa parole, a laissé sa lumière pénétrer dans sa vie. Du coup, il s'est rendu compte du véritable état de sa vie, de l'horreur du péché, et jusqu'à quel point elle avait sombré dans le mal. Bien consciente qu'elle ne pouvait rester debout dans la lumière, alors revêtue de son impureté, Silke a cherché une solution. Comment se présenter devant le Dieu qui est lumière, sans gêne et sans culpabilité? L'apôtre Jean dévoile la réponse dans le verset qui suit ce que nous avons lu tout à l'heure. « Dieu fait ce qu'il promet, et il est juste. Alors, s'il nous a vus en nos péchés, il nous les pardonnera, et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous ne pouvons rien faire pour nous purifier, si ce n'est d'avouer nos péchés, et d'admettre notre impuissance. Dieu fera le reste. Il est compatissant et miséricordieux, et il a tout fait pour que nous puissions demeurer ou marcher dans sa lumière, sans avoir à se cacher de peur ou de honte. Comme nous avons déjà lu, nous marchons dans la lumière grâce au sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tous nos péchés. Silke l'a découvert et ne l'a pas regretté. Au contraire, elle s'en réjouit et elle se réjouirait encore si, grâce à son témoignage, vous faisiez la même découverte et commenciez aussi à marcher dans la foi vers la lumière.
Jésus peut changer nos vies, tout comme il l'a fait pour Silke. Cependant, pour que cela soit possible, il faut laisser sa lumière nous éclairer et lui avouer nos péchés, puis lui faire confiance, car Jésus pardonne réellement les fautes confessées.
La prochaine fois, nous accueillerons un nouvel invité et nous commencerons une nouvelle série de discussions, cette fois-ci sur la vie d'Abraham. Abraham est un homme qui apparaît vers le début de la Bible. Il a rencontré bien des difficultés dans sa vie, des difficultés que nous pouvons rencontrer nous-mêmes aujourd'hui. Nous apprendrons beaucoup sur sa façon d'aborder ses problèmes.
Nous espérons donc vous retrouver bientôt. Au revoir et que Dieu vous bénisse.
Au revoir et merci pour votre intérêt.